many roads must a man walk down before you call him a man?
Bonjour, vous êtes bien dans l'émission Combien de temps encore, émission consacrée à la cause animale sur CFM. Alors aujourd'hui, on va parler des animaux dits de compagnie. Leur condition de vie n'est pas toujours aussi agréable qu'on veut bien le croire. Il y a de nombreux problèmes à soulever sur leur situation et les règles de vie qu'on leur impose. Donc il y a un problème majeur qui relève de la maltraitance d'un point de vue éthique. Maltraitance qui est le plus souvent d'ailleurs tout à fait légalisée et admise. Donc, je vous donne deux exemples flagrants. Les chiens à la chaîne, les chiens en cage dans les appartements, c'est la grande mode, pour qu'ils abîment pas les meubles quand les maîtres travaillent. Et le collier électrique, là je pense que c'est vraiment... il y a une maltraitance évidente puisqu'on envoie quand même des décharges électriques sur un être vivant. Donc ça, c'est vraiment des maltraitances complètement légales, légalisées. Donc je voudrais un petit peu mettre le point là-dessus. Et puis aussi le problème de comportement... des chiens, est-ce que on fait de plus en plus appel à des comportementalistes, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'on demande pas aussi de plus en plus à nos chiens de rentrer dans un moule, dans une société complètement aseptisée, sécurisée, hygiénisée, c'est-à-dire que le chien n'a, faut pas qu'il aboie, mais un chien ça aboie. Alors, si ça aboie trop, c'est qu'effectivement, il y a un mal-être de la part du chien. Il faut trouver la cause, bien sûr. Mais l'aboiement du chien en lui-même n'est pas un problème de comportement. Il faut qu'il soit propre, il ne faut pas qu'ils abîment les meubles, il ne faut pas qu'ils jouent, il ne faut pas qu'ils renifle trop d'odeurs. Donc là, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on revoie aussi notre comportement par rapport à notre chien. Voilà. Donc, on va avoir deux personnes en entretien. On va avoir Monica de l'association Ayuda Aide aux Lévriers, donc qui est une association située dans le Tarn et qui s'occupe donc d'aider un refuge en Espagne de Galgos, donc avec le martyr des lévriers dont on avait déjà parlé, et qui fait venir les lévriers quand cette association a trouvé un certain nombre d'adoptants. Et on va commencer tout de suite par l'entretien avec Frédéric Bastidon, qui est comportementaliste à Montauban. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling side. Early dawning Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Thank you.
Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir Frédéric Bastidon, qui est comportementaliste sous l'enseigne Un monde d'amis. Donc on va pouvoir s'entretenir un petit peu avec elle sur plusieurs notions. Bonjour Frédéric, tu m'entends ?
Oui, je t'entends très bien. Merci de ton invitation.
Voilà, donc l'enseigne Un monde d'amis, il y a d'ailleurs un site internet que l'on peut consulter en tapant Un monde d'amis. Où il y a, je te laisse présenter peut-être très 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 succinctement le site pour les problèmes pratiques, pour te joindre.
Oui, donc le site, tu viens de le dire, hein, c'est bien unmondedamis.fr. Et puis de là, vous pourrez m'appeler si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou simplement m'envoyer un mail.
D'accord. Alors on va commencer par plusieurs peut-être notions qu'on va définir et on va pouvoir un petit peu élargir au-delà d'une définition. Déjà tout simplement la notion d'éducation canine, peut-être. Alors la notion d'éducation canine, la différence entre éducation et dressage, peut-être affiner aussi entre éducation et rééducation pour les chiens adultes, et puis bien sûr l'éducation canine positive. Voilà, je te laisse un peu développer un peu en vrac toutes ces notions.
Alors, déjà, moi je suis donc à la fois éducateur canin et comportementaliste. Alors l'éducateur canin, en règle générale, il va juste s'occuper d'enseigner les ordres nécessaires aux chiens pour vivre en société avec nous, on va dire. Donc c'est le assis, la marche en laisse, le rappel, les choses dont on a besoin finalement quand on vit avec un chien. Ça, c'est le rôle de l'éducateur canin. Après, il y a le comportementaliste, donc l'étiquette que j'ai aussi, hein, qui lui va traiter plus des problèmes, entre guillemets, hein, problèmes de comportement. Donc ça va être tout ce qui est destruction, fugue, agressivité. Et surtout, la formation du comportementaliste, en fait, est différente de celle de l'éducateur canin. Hein. L'éducateur canin, il est vraiment focalisé sur le chien. Et à partir du moment où il y a un problème, il s'occupe du chien. Il part du principe, d'une certaine manière, que le problème vient du chien et qu'en traitant le chien, il n'y aura plus de problème. Le comportementaliste va avoir une vision beaucoup plus globale en considérant que s'il y a un problème dans ce contexte, dans cette famille, ça vient à la fois du chien, mais aussi en partie de la façon dont la famille est organisée, dont la famille vit avec le chien, etc. Donc, on a une vision et une façon de travailler qui est beaucoup plus large, en fait. Parce que moi, il y a des rendez-vous, en fait, en comportement, où je vais pas du tout interagir avec le chien, où je vais pas toucher le chien, où je vais rien faire avec le chien. Tout ce que je vais faire, c'est de l'entretien avec mes clients pour leur expliquer des choses, pour qu'ils comprennent comment mieux vivre avec leur chien. Voilà. Pour les deux étiquettes et les deux professions qui sont différentes, mais à mon sens quand même très complémentaires.
D'accord, oui. Avec tout un travail,
ouais. C'est compliqué de faire l'un sans l'autre.
Et tout un travail, c'est ce que tu disais, autant sur le chien que sur le maître et son mode de vie.
Oui, c'est ça. Et du coup, on travaille énormément à faire de l'information sur comment satisfaire les besoins du chien finalement, parce que beaucoup de gens prennent un chien, mais sans avoir du tout conscience de ce que ça implique derrière. Ils voient l'image de la chien fidèle ou tous les Disney qu'on a pu voir. Ils disent, ça va être génial, le week-end, je vais aller me balader avec mon chien. Et le reste de la semaine, ils travaillent comme des malades. Ils ont des enfants à s'occuper. Et résultat, le chien, il passe 8 à 10 heures tout seul. Le soir, personne n'a le temps de s'occuper de lui. Et après, ils nous appellent en nous disant, on a un problème, le chien, il détruit tout, il est tout fou, il est surexcité. Mais en fait, le problème, on se rend bien compte que ça vient pas du chien, quoi. Mmh. C'est vraiment qu'on lui donne pas assez d'activité, que un chien, ça a besoin de sortir, ça a besoin de voir des congénères. Et ça, on l'oublie trop souvent. On voudrait un chien pour qu'il réponde qu'à nos besoins à nous. Et que finalement, il nous écoute à la perfection. Qu'il soit disponible quand nous, on est disponible et qu'on a envie de sortir, mais que par contre, il soit sagement couché à nos pieds quand on a ni l'envie ni le temps de les sortir. Et mais c'est pas un robot, quoi. Donc, le chien, il va aussi falloir tenir compte de ses besoins propres et de ses envies. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on voit avec les gens. Et c'est aussi ce qui est intéressant. C'est parce que finalement, même si tu as des cas qui sont similaires, c'est-à-dire, mettons, un chien qui détruit, le cas, ça va être plusieurs fois le même dans des familles différentes. Mais par contre, la cause du problème et la façon, du coup, dont on va le résoudre, va pas être la même.
Oui, oui.
Donc, c'est ce qui fait aussi que ce boulot-là est intéressant.
Oui, ouais. Au niveau de pour trouver les solutions, en fait, il y a presque plus un travail sur le mode de vie du maître que sur le chien par rapport au travail sur les causes, en fait, du problème.
Oui, mais c'est ça. Effectivement, très souvent, ce qu'on fait, c'est rechercher les causes des problèmes. Si on reprend l'exemple du chien destructeur, il peut y avoir plein de raisons. Enfin, il y en a trois, hein, essentiellement, qui vont pousser un chien à détruire quand le maître n'est pas là. Ça peut être parce qu'il n'a pas appris à être seul. Et ça, effectivement, les éducateurs canins, généralement, savent le traiter. Hein. Ils vont apprendre au chien à être seul. Donc, c'est pas un souci. Mais par contre, après, il y a d'autres raisons, et notamment, il y a l'hyperattachement, dont on parle énormément. Alors après, souvent, on parle d'hyperattachement alors que ça n'en est pas. Parce que maintenant, dès qu'un chien détruit, finalement, on a l'étiquette « Ah, il est hyperattaché !» D'accord ? Ce qui n'est pas vrai, parce que l'hyperattachement, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Hein. C'est vraiment le chien qui ne peut pas se séparer de son maître d'attachement, de son maître. Mais donc, même si le conjoint est là, le chien va montrer des signes de stress et va être en mal-être total. C'est ça, l'hyper-attachement. Alors, ça arrive, mais c'est pas la même chose qu'un chien qui s'ennuie.
Oui.
C'est pas la même chose qu'un chien qui va, moi, c'est ce que j'appelle décompresser, c'est-à-dire un chien qui détruit, il peut aussi le faire parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, le maître s'en va et le maître est tellement inhibiteur pour son chien que dès que le maître s'en va, le chien se dit youpi youpla boum, j'en profite et je fais 10 000 conneries. Donc et c'est ça en fait le boulot, hein, ça consiste vraiment à essayer de comprendre pourquoi le chien détruit. Donc la cause, oui, on la cherche. Après, il faut pas non plus tomber dans un excès qui consiste à chercher des causes et des causes et encore des causes et toujours des causes. Par exemple, un chien il peut tirer sur sa laisse quand il voit un enfant en aboyant, soit parce qu'il a peur des enfants et qu'il essaye de les mettre à distance, soit parce qu'il est tout excité et qu'il a envie d'aller jouer avec les enfants. Donc c'est intéressant de savoir si c'est de l'excitation ou si c'est de la peur, évidemment. Mais après, une fois que j'ai déterminé que le chien il avait peur, par exemple, ça sert à rien de me dire « mais pourquoi il a peur ?» Ça, je m'en fiche. Parce que finalement, ce qui est important, c'est j'ai identifié la cause principale, c'est la peur. Et après, je sais comment travailler sur la peur et comment donner confiance au chien, etc.
Oui.
Mais savoir pourquoi il a peur, est-ce que c'est parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas été gentils avec lui? Est-ce que c'est parce que les enfants, il connaît pas du tout? Voilà, quoi. Chercher ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, le pourquoi, oui, mais pas indéfiniment.
Oui, voilà, pas en chaîne.
Et chercher le pourquoi. Ouais, non, mais c'est bon, à un moment, il faut s'arrêter.
Ouais.
Et il faut se dire, très bien, maintenant, je trouve...
Les solutions, j'ai trouvé la cause essentielle à la base. Maintenant, la cause de la cause, après, il faut trouver des solutions. Le principal, c'est
tout à fait. Parce que quand même, le but, c'est d'aider la famille et d'aider les maîtres qui font appel à nous. Et de leur trouver des solutions pour qu'ils aient plus le problème qu'ils rencontrent. Et que l'harmonie au sein du foyer soit restaurée un petit peu. Puis après, il y a des cas relativement simples où on va même pas chercher la cause d'ailleurs. Ouais. Moi, je sais qu'avec mon chien, par exemple, quand on se balade et qu'on fait demi-tour, donc si c'est pas une boucle, souvent, quand je fais ça, au moment du demi-tour, il s'excite et il me saute sur fixe. Parce que moi, j'ai deux chiens, il saute sur le deuxième. Pourquoi il le fait, honnêtement, j'en sais rien.
Ouais.
Mais par contre, j'ai travaillé sur le symptôme lui-même en me disant, oh, ok, il fait ça, je vais l'empêcher, je vais lui apprendre à faire autre chose.
Ouais.
Et ça a très bien marché. Parce qu'il y a des fois aussi où je peux pas être dans la tête du chien, finalement. J'ai pas de solution pour me dire, eh, pourquoi il le fait ou pourquoi il est excité dans telle ou telle situation. J'en sais rien. Et j'ai aucun moyen de savoir pourquoi ça le met dans cet état. Pourquoi cette situation qui est toute bête, qui est juste un demi-tour, quoi. Pourquoi ça l'excite? Je ne sais pas. Par contre, je sais qu'il est excité. Bon, je gère comme une excitation, tout simplement.
Et je détourne son attention, en fait, sur une autre façon de montrer qu'il est excité. En fait, il y a aussi, parfois, on peut aussi... Il y a excitation, donc plutôt que ça soit sauter sur l'autre chien, je vais le détourner, je vais lui apprendre à montrer son excitation d'une autre façon. Ça peut aussi être ça.
Oui, ça peut être ça. On peut tout à fait prendre un jouet, du coup, et faire jouer le chien, qui s'excite mais sur le jouet, plutôt que d'aller s'exciter sur le copain. En l'occurrence, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai travaillé plus sur quelque chose de plus calme. Donc, j'ai systématiquement, au moment où on faisait demi-tour, jeté des croquettes au sol pour que mon chien se focalise sur l'odorat
d'accord,
et la recherche.
D'accord.
Parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas, finalement, c'est travailler tout ce qui est plus calme et activité. Au lieu d'être... dans des activités excitantes comme le jeu ou les lancers de balles, de bâtons et tout ça, être dans des activités un peu plus calmes pour avoir ensuite au final un chien plus calme, globalement
plus
calme.
Équilibré. Ouais. Okay. Oui. Alors ce qu'on va, on va faire juste une petite pause musicale, on va reprendre l'entretien et voilà, on reprend l'entretien tout de suite après la pause.
Très bien.
Pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left the science. News guy wept when he told us I was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew wasn't lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies, saw toys and boys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. Had to cram so many things to store, everything in there. I think she would have killed me. A soldier with a broken arm fixed a stair to the wheels of a Cadillac. Aunt Melvin kissed the feet of a priest, and the queer threw up at the sight of that. And I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. It was cold.
Vous êtes donc toujours sur CFM. On reprend l'émission combien de temps encore ? Émission pour la cause animale. Et on reprend notre entretien avec, avec la comportementaliste Frédéric Bastidon. Voilà, donc on en était donc à des notions importantes comme éducateur canin, comportementaliste. avec un gros travail donc sur la relation homme-humain, avec voilà cette relation aussi sur l'humain, homme-animal et un gros travail sur l'humain, avec peut-être aussi des demandes qui sont de plus en plus... on demande aussi aux chiens, peut-être à nos chiens, de plus en plus de rentrer dans un moule. Donc on leur demande aussi des choses peut-être de plus en plus contraignantes. Le travail sur les causes, le travail sur le fait que donner au chien la possibilité de comprendre ce qu'on lui demande, ce qui, je crois, est la, l'éducation positive, au niveau de cette notion d'éducation positive. Si tu peux, est-ce qu'il y a cette notion de compréhension, que, faire l'effort de faire en sorte que le chien comprenne ce qu'on attend de lui
Oui, pour, oui, tout à fait. Oui.
Donc, alors. Sur l'éducation positive, est-ce que tu peux peut-être compléter, bien qu'on ait déjà, on a déjà parlé pas mal de, au niveau du comportementaliste, mais ça se rejoint, je pense, entre...
Oui, absolument. Donc, l'éducation positive, en fait, c'est travailler en motivant le chien. Enfin, pour moi, hein, je vais donner ma définition, après tout.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, pour moi, c'est vraiment travailler sur la motivation du chien. Donc, faire en sorte, dans un premier temps, qu'il soit motivé à faire ce que je vais lui demander et ce que je vais lui enseigner. Ça, c'est la première chose pour moi, qui est vraiment très importante. La deuxième, c'est, au lieu de passer notre temps à engueuler nos chiens, prendre le temps de leur enseigner. Parce que finalement, quand on rencontre des couples, hein, maîtres et chiens, on se rend compte que très souvent, au lieu de leur apprendre la marche en laisse, rappel. Ce qu'ils ont fait, c'est tirer sur la laisse, étrangler leur chien plus ou moins. Ils sont pas conscients, ils veulent absolument pas lui faire mal, mais finalement, ils savent pas faire. Donc, ils le grondent alors qu'ils ne lui ont jamais appris ce que ça voulait dire de marcher en laisse. Ou ils le grondent parce qu'il n'est pas revenu alors que jamais on lui a appris que quand on l'appelait, il devait venir de suite. Moi, quand mon mari m'appelle, j'arrive pas de suite ventre à terre. Quand mon mari m'appelle, je prends le temps de terminer. Le chien, si j'ai pas mis en place un apprentissage qui prend du temps, ben effectivement, il ne sait pas que quand on l'appelle, il doit venir tout de suite et laisser tomber le truc super intéressant qu'il est en train de faire. Il sait pas qu'il doit pas ramasser les trucs au sol. Et ça, c'est un grand classique. Moi, quand je me balade avec mes chiens, je vois très régulièrement des maîtres qui crient après leur chien parce que il est en train de ramasser une saloperie au sol. Mais déjà, pour lui, c'est pas une saloperie, hein. C'est quelque chose qui a de la valeur, c'est un truc qui lui plaît, donc il a envie de bouffer, parce que pour lui, c'est normal. Et ensuite, on lui a jamais appris ce que c'était que lâche ou donne ou laisse ou... Non, mais on l'engueule par contre. Donc ça, c'est un gros problème, parce qu'après, derrière, ça crée des problèmes relationnels, parce que le chien passe son temps à se faire engueuler alors qu'on lui a rien appris. Et ça, c'est une grosse partie de mon travail aussi. C'est d'essayer de rétablir une bonne relation entre le chien et le maître, sachant que le chien a perdu confiance dans son maître parce qu'il s'est fait beaucoup gronder ou engueuler sans rien comprendre du monde dans lequel il vit, parce que le chien ne vit pas du tout dans le même monde que nous. Il vit dans un monde d'odeurs qui ne nous est absolument pas accessible. Mmh. Moi, l'autre jour, j'ai vu un chien, il était là, le nez en l'air, il était en train de sentir quelque chose. Mais moi, je sentais rien, rien. Je ne suis pas plus enrhumée que ça, mais juste, je sens rien. Donc on voit pas du tout le monde de la même manière. Donc en promenade, c'est pareil, quand je vois des maîtres qui donnent des coups de laisse pour empêcher le chien de renifler, mais sa vie en balade, c'est renifler. Donc laissez vos chiens renifler, pitié, ou alors ne les prenez même pas en balade, c'est pas la peine, c'est pas pour les laisser renifler, parce que leur balade, c'est ça, c'est renifler, leur plaisir en promenade, c'est ça. Donc ça, c'est important. Et du coup, c'est tout ce qui est prévention, c'est éviter tous les problèmes. Si on pouvait faire plus de prévention, ce serait génial.
Ouais, on va, voilà.
Pour éviter les problèmes, éviter tous les abandons qu'il peut y avoir dans les refuges. Ouais. Parce que ben, c'est pareil, hein. Les gens, ils prennent un chien, ce que je disais tout à l'heure. Ils prennent un chien, mais ils sont pas conscients de ce que ça va impliquer derrière, au niveau temps à lui consacrer, au niveau activité à lui donner, au niveau éducation, parce que beaucoup de gens veulent des chiots parce qu'ils se disent oh, « ben, comme ça, je vais l'éduquer, il sera comme j'ai envie qu'il soit ». Mais finalement, derrière, ils n'ont pas le temps de lui apprendre la propreté, ils n'ont pas le temps de lui apprendre et de tisser une relation avec lui, de lui apprendre le rappel. Ils n'ont le temps de rien, parce que nos vies sont ce qu'elles sont, et qu'on veut les imposer en plus à nos chiens. Donc ça peut pas marcher. Il y a des gens, moi je suis convaincue, et puis de temps en temps je leur dis, hein, il y a des gens, ils ne sont pas faits pour avoir des chiens, ils n'ont pas les conditions pour avoir des chiens. Mais c'est pareil, les associations de protection animale ou les SPA et tous les refuges qui peuvent placer les chiens auprès des particuliers, parfois, l'un de leurs critères, c'est savoir s'il y aura un jardin ou si le chien va vivre en appartement. Et moi, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, ça, parce que ça ne devrait pas être le critère. Mmh. Un chien en appartement, il va être sorti 4 fois par jour. Parce que pour des raisons de propreté, tout simplement. Pour faire ses besoins, vous ne pouvez pas ne pas le sortir. Ou alors, vous allez avoir des problèmes de malpropreté. Enfin, mmh. problème entre guillemets, quoi. Donc il est sorti, et comme en plus souvent on va dans des endroits où il y a d'autres chiens, parce que pour leur faire faire leurs besoins, bon, on les amène au caca, je sais même pas comment ça s'appelle là, mais les canicides, mmh. pour leur faire faire leurs besoins, ben ils croisent d'autres chiens. Donc on a un chien qui du coup a des relations sociales avec d'autres chiens, alors que vous en avez d'autres qui sont enfermés dans des jardins, qui voient jamais personne. Ça c'est un non-sens, et ça c'est quelque chose qui m'agace énormément, mmh. parce que au lieu de se focaliser sur cette notion de maison-appartement, on ferait mieux de s'intéresser à combien de temps vous avez pour votre chien. Mmh. Moi, pour moi, c'est une des conditions sine qua non pour avoir un chien, c'est déjà d'avoir du temps à lui consacrer. Si vous n'avez pas le temps parce que votre vie est trop chargée, parce que vos enfants vous accaparent, ce qui est normal, hein, qu'on soit accaparé par nos enfants, ben, ne prenons pas de chien. Sinon, c'est un acte purement égoïste et qui va nous mener à la catastrophe. Parce qu'après, les gens sont bien embêtés parce qu'effectivement, ils n'y arrivent pas. Ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Moi, j'essaye de les aider, mais il y a des moments, il y a des situations dans lesquelles je ne peux pas les aider parce que je n'ai pas de baguette magique pour faire en sorte qu'un chien qui passe 10 heures par jour tout seul dans un jardin soit bien équilibré et heureux. Voilà. Et donc, oui, donc la prévention, voilà, c'est informer les gens.
Sur la prévention des morts,
ce que ça implique. Et puis c'est aussi prévenir les morsures, et ça passerait par tout ce qui est éducation des enfants, parce que les enfants, on le voit bien, hein, c'est les adultes de demain. Mais moi, je sais, j'ai des enfants, et quand à l'école ils ont appris le tri sélectif, ils sont revenus à la maison en me disant, alors ça va dans telle poubelle, ça va dans telle autre, et moi je me faisais engueuler quand je me plantais. Donc l'enfant est en plus à cette capacité à éduquer l'adulte. Donc c'est génial de passer par un enfant pour ensuite faire passer des messages aux adultes. Donc la prévention auprès des enfants dans les écoles, tout ça, c'est quelque chose qui est pas mal développé dans d'autres pays, notamment la Suisse. Mais en France, très très peu. Oui. Et quand on en parle aux enseignants, ils sont pas très chauds et pas très motivés, et pas très intéressés, parce que les programmes scolaires sont surchargés, hein, ce qui est vrai, certainement. Mais il y a aussi des priorités, il y a trop d'enfants mordus aujourd'hui. Il y en a beaucoup trop qui se font mordre, tout ça parce que on n'a pas pris la peine de leur expliquer que le chien était un chien et qu'il avait un mode de communication qui n'était pas le nôtre et que ça n'était pas une peluche à qui on pouvait tirer les oreilles. Et ce serait pas si compliqué finalement d'éviter tous ces accidents, toutes ces morsures, s'il y avait plus d'actions de prévention, d'organiser. Sauf que, encore une fois, les écoles nous ferment un peu les portes. Et c'est dommage.
Oui, parce que ça serait, c'est ce que, voilà, essayer de taper aux portes, mais s'il n'y a pas de, tant que c'est vrai qu'après, il y a toujours ces problèmes de programme, mais bon, on peut quand même au niveau du Tarn-et-Garonne, il y a lancé un appel à projet, ou voilà, en profiter pour par le biais d'une radio, voilà, que effectivement ça serait bien que il y ait quelques séances, je sais pas combien ça prend, combien de séances à peu près, des préventions dans les écoles, c'est sur l'année?
Alors on peut le faire, non, on peut le faire sous deux formules, soit on fait un atelier unique de 2 heures, ouais. Et à ce moment-là on a vraiment transmis. Soit comme il y a les PAP qui sont encore en activité en tout cas à Montauban. Après ailleurs, je sais pas. Mais l'organisation du temps scolaire, tout ça, on a mis en place un programme qui lui est sur 8 semaines, donc 8 fois 1 heure.
D'accord.
Donc voilà, moi j'ai été formée à ce programme. En plus, il est vraiment bien. On a des peluches, on a tout un tas de jeux à faire avec les enfants. C'est très complet, c'est très ludique. Donc les enfants, ils accrochent, ils apprennent à faire avec des peluches. Donc il y a des établissements qui ne veulent pas de chiens, ce que je peux comprendre, hein. Mais on peut tout à fait apprendre aux enfants à interagir avec les chiens. Enfin, en passant par des peluches.
Oui, oui. Avec les gestes à ne pas faire, à ne pas effrayer.
Ouais, comment... voilà. Mmh. Ou okay. Ne pas aller l'embêter quand il est dans son panier, pas aller l'embêter quand il mange, enfin c'est tout ça. Parce qu'aujourd'hui c'est pareil, les gens ils sont là, il va grogner dessus, il était en train de manger, je me suis approché, il a grogné, mais je veux dire c'est normal, c'est un chien à la base, c'est quelque chose de normal. Il y a une cinquantaine d'années, je pense que ça posait pas de problème. Le chien grogner, on trouvait ça normal.
Ouais,
aujourd'hui,
ouais.
Le chien grogne et par contre, il faut pas.
Et voilà,
on estime ouais. que le chien n'a pas le droit de grogner. Mais grogner, ça fait partie de son répertoire comportemental.
Ouais.
C'est un comportement canin normal.
Ouais.
Exactement comme nous, humains, on peut parfois dire à quelqu'un, tu me gonfles.
Ouais, voilà,
parce que c'est ni plus ni moins ça. Hein. Un grogner, c'est dire à l'autre, là, tu vas trop loin, tu me gonfles.
C'est comme
on peut dire ça à son mari sans divorcer. Hein.
On peut aussi peut-être voir assez succinctement, parce que moi, j'aimerais qu'on aborde le problème du collier électrique. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est de la maltraitance. Hein, c'est qu'on envoie des charges électriques sur un être vivant. Donc, voilà, moi, je pense que c'est absolument pas ça, que ça devrait être interdit. Voilà, on en est loin
oui,
en France.
Oui, mais tout à fait. Moi, je n'en pense que du mal. Hein. Je n'en pense que du mal. Et en plus, je vois les effets néfastes, malheureusement, au quotidien. Hein. Parce que le chien, ça va le rendre beaucoup plus agressif, ça va le mettre dans un monde dont il maîtrise rien du tout, avec des décharges qu'il reçoit, qui pour lui ne sont pas forcément prévisibles et qu'il ne comprend pas. Donc, ça rend le chien très instable et beaucoup plus dangereux finalement. Donc, on pense résoudre un problème en électrifiant son chien. Et enfin, déjà, rien que penser ça, c'est...
Voilà, déjà à la base. Et en plus, alors non seulement d'un point de vue moral, je trouve ça absolument injustifiable, mais en plus, c'est ce que tu dis, c'est qu'en plus, les résultats sont catastrophiques. Donc...
Oui, non, ça ne donne pas de bons résultats. En plus, il y a deux cas de figure. Hein. Il y a le chien qui est complètement tétanisé, qui comprend pas du tout pourquoi il se prend des charges. Et du coup, il se fait avoir vraiment très peur. Et un chien qui a très peur est un chien très dangereux.
Et très malheureux.
Et puis, il y a le chien qui en a... Oui, très malheureux, forcément. Évidemment. Parce que vivre dans un monde de terreur, c'est quand même assez effrayant. Et ça peut pas rendre heureux. C'est certain. Et puis, il y a le deuxième cas, le chien qui en a rien à foutre. J'ai eu un appel il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui me dit « Je lui ai mis un collier électrique, hein, mais elle s'en fiche, elle se barre quand même. » Je dis « Ben oui, c'est aussi l'un des inconvénients, c'est que le chien peut n'en avoir rien à cirer et se barrer quand même. Donc, en plus, c'est totalement inefficace. Dans son cas, lui, en tout cas, c'est inefficace. Alors que, ben, il y a des moyens d'éviter les fugues, il y a des moyens de travailler sur les aboiements, il y a des moyens pour ne pas électrifier son chien. » Mais obtenir des résultats, mais sans lui faire mal, sans lui procurer une douleur totalement...
En travaillant, puis en revenant, en travaillant de nouveau, comme on revient sur la cause, les causes, trouver les causes. Enfin, qu'on a trouvé les causes, le gros du boulot, déjà, il est bien avancé quand même, donc...
Tout à fait, comprendre pourquoi le chien en est là, et puis il faut que le maître soit prêt à changer. Parfois, c'est ça qui est frustrant dans ce job-là, c'est que l'humain n'est pas toujours prêt à faire les changements. Et il voudrait plus qu'on ne travaille que sur le chien. Il part aussi, lui, du principe que s'il y a un problème, c'est son chien, et tout vient de son chien. Il y a beaucoup de gens, ils ont toujours eu des chiens, donc finalement, ils se disent « Ah ben, celui-là, j'y arrive pas, c'est parce qu'il est comme ci, il est comme ça. » Mais peut-être celui-là, juste, il ne peut pas s'adapter à la vie qu'on lui propose. Donc, il va falloir changer pour lui proposer une vie différente. Donc, voilà. Sinon, le chien ne lui changera pas.
Ouais.
Si l'humain ne modifie pas sa façon d'être avec son chien, le chien ne change pas.
On va peut-être arrêter cet entretien. On pourra le reprendre peut-être sur d'autres émissions. On peut aussi dispatcher sur plusieurs émissions. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accepté cet entretien. Et donc tu es à Montauban, c'est à Montauban.
Oui.
Et voilà, tu c'est sur un cercle autour de Montauban. Et on consulte ton site, Un Monde d'Amis. Et là, on a tous les renseignements pour pouvoir te contacter en fait.
Voilà, tout à fait.
Ok, merci beaucoup et puis de toute façon à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Donc juste après la pause musicale, on retrouve Monica de l'association Ayuda, aide aux lévriers, et qui va nous parler donc du douloureux problème des galgos et des podencos, qui sont des lévriers venus d'Espagne, et qui ont subi de nombreuses maltraitances.
Anymore, I want them to turn black. I see the girl hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you.
Bonjour Monica, donc tu nous fais le plaisir de participer à l'entretien sur CFM. Alors tu vas présenter un peu l'association Ayuda, dont tu es la représentante et la créatrice. Et puis on va peut-être parler et des Galgos et de Ayuda. Je te laisse présenter tout ça un petit peu en bloc. Hein. Je pense que c'est tellement lié que voilà. Donc je te laisse te présenter ainsi que la sauce et le douloureux problème des Galgos.
D'accord, mais tu me dis quand tu démarres.
Là c'est bon, on y va.
Voilà, Ayuda, ce qui veut dire aide en espagnol, et pour compléter notre titre, c'est Ayuda, aide aux lévriers. Ça veut bien dire le but et l'objectif de notre association, qui a été créée pour aider les lévriers et soutenir les refuges par tous les moyens à notre disposition. Alors, pourquoi aider les lévriers en Espagne particulièrement, puisque là-bas la situation est chaque année très difficile en fin de la période de chasse. Ces galgos sont utilisés pour ce qu'on appelle plutôt une chasse spectacle. À deux, ils chassent un lévrier, ce qui est en fait leur destinée depuis la nuit des temps. Le problème, au bout de 2 ans, ces chiens-là sont considérés comme moins performants. Alors là, c'est le sort d'un lévrier qui change radicalement. Soit il est abandonné, dans le meilleur des cas, on l'emmène dans un refuge. Et dans le pire des cas, pour le punir, parce qu'il n'a pas fait honneur à son galguero, eh bien, soit il est pendu ou abandonné dans des terrains arides ou
j'étais dans un puits ou autre chose, puisque le chien n'est pas considéré comme un être vivant, mais c'est plutôt un animal de renta, selon la loi, ce qui veut dire, contrairement à un caniche ou un autre, ou un chat de la maison, c'est un animal qui rapporte, donc il n'a pas le droit de vivre comme il devrait vivre en tant qu'animal de compagnie. Alors, cette année, c'est le problème est encore plus grave que d'habitude, puisque chaque année, il y a au moins 10 000, voire 20 000 laitiers qui sont abandonnés après la période de chasse. Cette année, du fait que, selon les médias espagnols, la myxomatose, c'est une maladie qui touchait auparavant seulement les lapins, c'est étendu aux lièvres, ce qui veut dire que la chasse dans certaines régions était interdite. Ce qui veut dire un galgo qui ne chasse pas est forcément une bouche inutile à nourrir pour son galguero. Donc notre but, c'est à la fois d'alerter sur la situation, mais surtout aussi notre idée, c'est certes, on peut pas sauver tous les galgos, mais pour si on sauve un galgo, ça change pas le tour du monde, mais pour ce galgo là tout son monde change. C'est pour ça on fait appel à l'adoption, parce que ce sont des chiens qui sont très doux. Il faut avoir un peu de patience, parce que certains ont vécu des choses horribles. Et donc, il faut qu'ils reprennent confiance dans l'être humain. Alors, ça c'est un des objectifs. L'autre objectif, c'est aussi d'aider notre refuge partenaire à Albacete avec des collectes de croquettes, de matériel médical et toutes les choses utiles pour aider ces chiens.
Et là, Monica, donc le refuge partenaire, il est en Espagne, hein, c'est ça?
Oui, il est en Espagne, il se trouve à Albacete, et donc on essaye d'y aller, d'amener les affaires qu'on a collectées, ou on les confie quand le refuge nous amène des laitiers qui sont adoptés. Et pour nous, il ne suffit pas de faire adopter le chien, parce que une adoption doit être une réussite pour le chien comme pour les adoptants. C'est pour ça que nous nous efforçons aussi d'accompagner un adoptant en bien le conseillant, en regardant bien est-ce que sa condition de vie correspond pour avoir un galgo, puisqu'ils aiment bien être dedans. Il faut qu'il soit, qu'on a de la patience pour les habituer à l'être humain, puisque parfois ils sont un peu méfiants. Et donc, c'est pas un chien comme un autre. Nous faisons aussi pour ça régulièrement des petits ateliers pour redonner confiance à un chien craintif, ce qui aide l'adoptant, et c'est toujours aussi un moment de rencontre entre, disons, galgophiles, parce qu'il y a bien sûr aussi des galgos qui posent aucun problème. Ils arrivent chez nous du moment où ils peuvent se mettre sur un canapé, ils sont très très contents. Voilà, c'est un petit peu notre premier objectif.
Et donc vous faites vous allez chercher les chiens régulièrement dans l'année, ou surtout maintenant, puisque ça va être c'est au début février la fin de la chasse, c'est ça je crois.
Donc c'est-à-dire c'est particulièrement important à la fin de la chasse, mais bon, du moment où on a un certain nombre d'adoptants, dans ce cas-là, il y a un transport, et parce qu'on ne fait pas venir des chiens ici pour les mettre après dans un autre refuge. C'est pas le but, puisque notre refuge est très très bien. Là-bas, les chiens sont soignés, ils sont en sécurité, et ils vivent dans des petits groupes, dans des différents enclos, et donc il y a aussi toute une équipe vétérinaire qui s'occupe de ces chiens-là. Et donc nous, régulièrement, quand il y a un certain nombre d'adoptants, on fait un transport ou on demande un transport au refuge.
D'accord.
Vous comprenez bien que on va pas faire un transport pour un chien tout seul, puisque ça fait, disons, dans le sud-ouest, on a pour 10 heures pour aller à Albacete.
Oui. Donc en fait, toute l'année, à chaque fois qu'il y a un certain nombre d'adoptants, vous pouvez aller chercher où le refuge amène les chiens qui vont être adoptés, en fait. Et ça, c'est toute l'année, c'est valable toute l'année,
voilà.
En fait.
D'accord. Et ce qui pour nous est vraiment très, très important, de bien expliquer la particularité des lévriers, puisque ce ne sont pas des chiens comme les autres. On ne peut pas les éduquer comme, par exemple, un caniche ou un malinois. Il faut être très doux, ferme mais doux. Et c'est pour ça notre but, c'est les rencontres qu'on fait régulièrement, des échanges entre des personnes qui ont déjà adopté. Pour nous, c'est un point très très fort, parce que de dire, bon, vous avez adopté un chien, voilà, c'est votre chien, et maintenant débrouillez-vous, ça c'est pas notre méthode. Puisque ça rend le chien malheureux et ça sent aussi l'adoptant malheureux. S'il n'a pas le mode d'emploi pour un galgou, c'est dommage, parce que c'est des chiens qui s'adaptent tout compte fait très très vite à notre mode de vie.
D'accord. Donc on va faire juste une petite pause musicale et on reprend l'entretien juste après.
D'accord.
Splinters. Bring it on down.
Alors, vous êtes toujours sur CFM, dans l'émission Combien de temps encore, émission consacrée à la cause animale. Et on va reprendre l'entretien avec Monica, qui est, qui gère et qui a créé l'association Ayuda, aide aux lévriers. Et donc, on reprend donc le dialogue avec elle. Donc, on parlait des adoptants qui sont déjà un peu voilà avec une formation, une aide une fois que l'adoptant a pu recueillir le lévrier, une aide, un suivi hein, pour que tout se passe le mieux possible dès le départ. Après, qu'est-ce qu'on peut-être alors après si tu veux rajouter des choses, mais déjà qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux auditeurs qui voudraient aider ton association, voilà déjà, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est la première des choses, ils peuvent très bien adhérer à notre association. C'est très facile parce que bon, pour tout, l'argent c'est le nerf de la guerre et on peut devenir membre de notre association, c'est 18 euros par an. Si on veut faire être membre bienfaiteur, c'est 30 euros par an. Parce que bon, avec tout aide d'argent, ça nous permet de sortir des chiens, des refuges et de mener notre combat, notre lutte pour aider ces lévriers. Après, bon, on peut toujours nous contacter parce qu'en fait, tout le long de l'année, on fait énormément de choses. On fait des choses ludiques comme des balades, comme par exemple le 27 janvier à la case, au château de la case. La galette, la galgo-galette pour se rencontrer, pour discuter. Mais on fait aussi des vides greniers, des vides dressing. On participe avec des stands d'information dès qu'une occasion se présente. Et pour tout ça, on a besoin des gens qui peuvent donner un coup de main. Après, bien sûr, on peut aider à collecter du matériel médical ou on peut faire une action dans un grand surface pour attirer l'attention sur la situation en Espagne et en même temps collecter de la nourriture pour les chiens. Il y a 100 000 actions qu'on peut faire. Il y a des gens qui peuvent, par exemple, fabriquer pour les ventes sur des stands d'information. On peut faire des laisses. Il y a des gens qui ont bricolé des très jolies porte-clés, il y a des idées, ils n'ont qu'à nous contacter et on discutera. Chacun peut apporter sa pierre à
l'école. D'accord. Quand on va sur le site Ayuda, sur Internet, il y a tout, hein, il y a les contacts, il y a tout, de toute façon.
C'est-à-dire, il faut aller, c'est ayuda-asso.com. Sinon, bien sûr, on peut écrire à ayuda.presidente@gmail.com et je réponds tout de suite.
D'accord. Et je le remettrai sur le podcast, ça, à ce moment-là, l'adresse mail pour joindre l'association. Je le repréciserai sur le podcast pour les auditeurs. Est-ce que tu penses qu'en Espagne, il y a une évolution? Est-ce qu'il y a des... Alors, au niveau des pétitions, il y a de... Voilà, dire aussi aux auditeurs qui n'hésitent pas à signer les pétitions qui sont sur One Voice, 30 millions d'amis, PETA France, toutes les grandes associations.
Premièrement, c'est exactement ça. On peut... on ne va pas changer les mentalités en une journée, mais on peut soutenir surtout tous les Espagnols, et ils sont nombreux à manifester contre la maltraitance. Nous allons certainement, le 3 février, on va aller à Barcelone, où il y a une grande manifestation contre la maltraitance des lévriers. Le même jour, puisque c'est la fin de la chasse, à peu près dans une trentaine de villes en Espagne, on marche pour justement changer les lois et les mentalités. Donc, on peut très bien venir avec nous. Les gens qui souhaitent renforcer les rangs, ils n'ont qu'à se manifester auprès de nous. Parce que ça, c'est très important. Le changement peut venir qu'à l'intérieur de l'Espagne même. parce qu'il faut absolument soutenir les Espagnols, et quand on connaît le nombre de bénévoles qui aident dans les différents refuges, qui aident les lévriers, c'est énorme, et ils méritent toute notre admiration, parce que c'est pas l'Espagne qui en cause.
Oui.
C'est les Galgueros qui sont en cause, et c'est surtout cette maltraitance qui ne devrait pas avoir lieu.
Il y a c'est vrai qu'au niveau de l'Espagne, il y a quand même ça, au niveau des mentalités, ça bouge pas mal en Barcelone qui a interdit les courses de taureaux. Donc il y a quand même il y a une belle évolution qui en cours en fait au niveau de la cause animale. Donc c'est ce que tu dis, il faut absolument que ça vienne de l'intérieur même du pays, de l'Espagne, pour pour faire évoluer les mentalités et les lois en fait.
Voilà, ensemble. Exactement. C'est pour ça les gens qui aimeront être informés ce que Ayuda fait, hein, tous nos actions, tous nos activités, qu'ils me communiquent leur adresse mail et je les mets dans notre liste, et comme ça ils sont régulièrement informés sur nos activités. Alors c'est ayuda.presidente@gmail.com.
D'accord, ok. Écoute, on va. Alors, peut-être qu'à Albi, avec One Voice, il y aura peut-être une action, justement, le 2 février. Il y aura sans doute un stand One Voice et, justement, en plus représenter l'association Ayuda. Normalement, je pense que ça devrait se faire le 2 février à Albi. Voilà.
Avec donc, grand voilà, plaisir.
En plus, donc, conjointement à ce qui se passe. Il y en aura à Toulouse aussi, je pense. Et puis, conjointement, justement, à la grande marche sur Barcelone. Écoute Monica, en tout cas je te remercie. Je pense que ça sera pas mal.
Je remercie toute l'équipe.
Ça sera pas mal que tu reviennes de temps en temps pour faire un petit peu des piqûres de rappel, parce que en France tout le monde n'est pas forcément au courant de ce douloureux problème, et voilà, peut-être je pense que de temps en temps ça sera bien que tu reviennes sur l'émission pour rappeler un peu les choses et rementionner ton association. Voilà.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci et à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Donc, combien de temps encore? Une émission dédiée à la cause animale. Donc, sur CFM, tous les troisièmes mercredis du mois à 19h, rediffusé le samedi suivant à 11h. Vous pouvez également retrouver cette émission en podcast en tapant combien de temps encore CFM Radio, donc sur cfmradio.fr. Je vous souhaite de passer un bon mois et puis à la prochaine fois. Au revoir.